Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. En Italie, Matteo Salvini, le leader de la Ligue, un parti d'extrême droite, gouverne le pays depuis 9 mois en coalition avec le mouvement 5 étoiles, un parti anti-système. Les deux formations sont à la fois alliées et concurrentes, mais il a fallu peu de temps pour que la Ligue et son charismatique chef prennent le dessus sur le mouvement anti-système. Les dernières élections régionales dans les Abruzzes et en Sardaigne ont été cruelles pour le mouvement 5 étoiles. Alors dans ces conditions, cette alliance peut-elle perdurer ? Comment Matteo Salvini modèle-t-il petit à petit l'Italie ? Et à quelques mois des élections européennes, quelle est la stratégie du leader d'extrême droite pour imposer ses vues au sein de l'Union européenne ? Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Tommaso Vitale. Je devrais dire d'ailleurs buongiorno Tommaso Vitale.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Vous êtes professeur de sociologie à Sciences Po Paris. Paolo Livi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'agence de presse italienne ANSA et vous collaborer très régulièrement au grand quotidien La Stampa. David Basso, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiant franco-italien et vous avez été élu dans une vie antérieure, mais pas si lointaine que ça, vu votre âge, dans la vingtaine d'années, un élu municipal dans un petit village.
Dans un petit village du nord-est de l'Italie, dans le Frioul, un petit village de 1500 habitants, au lendemain de mes 18 ans.
Qui s'appelle ?
San Martino al Tagliamento.
C'est déjà très joli à entendre. Alors, vous avez été un élu. Dans les petits villages, les élections sont très politisées ou...
Très peu, ça dépend de quel côté on est. Donc là, c'était une liste, ce qu'on appelle une liste civique en Italie. Donc il n'y avait pas un rattachement à un parti, mais il y avait un certain nombre de personnes qui étaient inscrites personnellement au parti démocrate.
Donc vous êtes plutôt, on va dire, une tendance...
Moi, je faisais partie de ces personnes qui étaient inscrites à l'époque au parti.
Et le parti démocrate, pour qu'on y voit plus clair, c'est un parti de centre-gauche, en Italie. Bonjour Eric Joseph.
Buongiorno, bonjour.
Buongiorno. Vous êtes le correspondant de Libération en Italie. J'ai toujours tendance à dire que vous êtes le plus italien des Français. J'ai raison de le dire ou pas ?
Oh ben, peut-être. Enfin, je prends ça comme un compliment.
Évidemment, il faut le prendre comme un compliment. En tout cas, merci d'être en ligne de Rome. J'ajouterai que vous êtes le cofondateur d'une association qui s'appelle Europa Now. Ça, c'est pas l'italien, Europa Now. Quelle est cette association que l'on trouve évidemment sur un site europanow.eu ?
Oui. Absolument, l'idée c'est de cette association, c'est d'incarner les valeurs de l'Europe, de faire en sorte que ça ne soit pas seulement des principes et la représentation d'une institution, mais que vraiment ça soit partagé et ressenti par les citoyens, et le fait aussi de d'œuvrer de manière à ce que l'Europe change, changer l'Europe en vue d'avoir davantage d'égalité des droits des citoyens et d'œuvrer en quelque sorte pour aller en direction d'une République européenne.
Alors évidemment, sur la page de l'émission, les références et le site Europa Now. Alors, Paolo Livi, sans refaire toute l'histoire récente de l'Italie, il faut peut-être rappeler dans quel contexte Matteo Salvini, le leader de la Ligue, et le mouvement 5 étoiles, emmené par Luigi Di Maio, ont gagné les dernières élections. C'était il y a tout juste un an, le 4 mars dernier, le 4 mars 2018. Dans quel état politique, économique, puis j'ajouterais peut-être psychologique, se trouvait l'Italie il y a un an ?
Mais déjà, le 4 mars, dans l'imaginaire collectif italien, est une date... pas n'importe laquelle, parce que c'est la date de naissance de Lucio Dalla, qui est un des plus grands chanteurs italiens et dont la chanson, une des chansons les plus importantes, parle de sa naissance. Justement, c'était un 4 mars. Et soudainement, il y a eu cette élection qui a balayé complètement ce souvenir du 4 mars comme date symbole de Lucio Dalla, et c'est devenu la date du grand basculement, disons, de l'Italie depuis l'après-guerre, où il y avait plus ou moins des partis une dichotomie de droite, centre-droite, centre-gauche, avec Berlusconi, avec cette anomalie berlusconienne, bien sûr, mais plus ou moins on restait dans un cadre assez typique, classique, le grand basculement vers cette Italie populiste, des populismes, pour nous, complètement nouvelles, parce que, voilà, comme vous le dites, justement, le 4 mars marque vraiment un tournant, c'est-à-dire qu'avant, on avait eu un gouvernement du Parti démocrate, justement, qui avait gouverné avec différents premiers ministres, présidents du Conseil, je les rappelle, Enrico Letta, Matteo Renzi et en toute fin Paolo Gentiloni. Et la chose assez bizarre, c'est que à la fin de cette expérience du Parti démocrate, les voyants économiques, finalement, après une longue crise durée 10 ans, étaient en train de se remettre en ordre. Disons, tout n'était pas, bien sûr, serein, mais le chômage était en train de baisser, la croissance était en train de repartir. Donc ce vote, il a été...
Une surprise.
Une surprise, pas tellement une surprise, parce que... mais en tout cas, il a été dicté par vraiment une... il a été un vote qui est sorti vraiment des tripes des Italiens, parce qu'il y avait une rage, une frustration qui avait, s'était accumulée pendant 10 ans de crise, liée au délitement économique, lié à la question des migrants et plein d'autres facteurs. Et donc, les Italiens, même si rationnellement les indicateurs étaient positifs, ont dit non, on n'en veut plus, on veut tenter cette nouvelle expérience avec le mouvement 5 étoiles, comme vous l'avez dit, parti anti-système et la Ligue du Nord. Une sorte, pour simplifier, pour un public francophone, c'est comme, avec toute proportion gardée, si Marine Le Pen du Rassemblement National formait une alliance avec les Gilets jaunes.
Alors, Tommaso Vitale, cette alliance de la carpe et du lapin, comme on dit en français, et finalement, elle a eu du mal à voir le jour, car il a fallu du temps pour qu'un gouvernement naisse de cette coalition, comme vient d'expliquer Paolo Levi, relativement improbable.
Mais la première chose qui s'était passée il y a un an, c'est que le Parti démocrate a dû décider si essayer d'aller à gouverner avec le mouvement 5 étoiles ou pas. Et il a décidé de façon très nette de ne pas le faire. Et le mouvement 5 étoiles avait pris beaucoup, beaucoup de votes. Et
ils avaient... Oui, 32% des électeurs ont voté il y a un an pour le mouvement 5 étoiles.
Exactement, avec des avantages majoritaires qu'ils ont amené à avoir beaucoup de personnes au Parlement. Donc le mouvement 5 étoiles était le pivot. Et ils ont commencé à explorer plusieurs possibilités. La droite aussi a commencé à explorer des possibilités de se fédérer, de peut-être aller au gouvernement avec le Parti démocrate.
Et finalement,
après beaucoup de travail institutionnel qui a été garanti par le président de la République, les deux se sont rencontrés et ils ont commencé à travailler à un programme de gouvernement. Ils ont découvert les intérêts qu'ils avaient à se soutenir l'un par rapport à l'autre. Et ils ont marqué un coup, car ils ont fait un gouvernement très stable avec énormément d'élus, donc avec une très forte majorité, capable de garder dans les mains toutes les commissions parlementaires. Et voilà, et on se retrouve avec le plus important gouvernement à droite dans l'histoire de l'Italie, car le 5 étoiles amène les élus. Et Salvini amène la stratégie politique.
Et l'idéologie. Éric Joseph, ce qui est frappant, c'est que au lendemain des élections, le mouvement 5 étoiles a environ 32% des voix. La Ligue, avec une alliance avec Forza Italia, avec d'autres petits partis, 37% des voix. Mais c'est tout de suite Matteo Salvini qui s'impose. D'abord, il est vice-premier ministre comme Luigi Di Maio, le leader du mouvement 5 étoiles. Mais lui, il a choisi l'intérieur quand Luigi Di Maio a préféré un large ministère du développement économique, du travail, des politiques sociales. En tout cas, c'était plus difficile de s'imposer avec un ministère aussi large. Matteo Salvini s'est tout de suite imposé, Éric Joseph.
Oui, effectivement, Matteo Salvini, en quelques semaines, est devenu véritablement l'homme fort du gouvernement. Et quand on dit l'homme fort du gouvernement, c'est par rapport à Luigi Di Maio, mais encore plus par rapport à Giuseppe Conte, qui est officiellement le président du Conseil, mais qui en réalité est totalement sous la coupe de ces deux vice-premiers ministres. Et Matteo Salvini s'est imposé parce qu'effectivement, il a un ministère où il peut montrer très rapidement qu'il agit. Et en fait, le succès, je pense, de Matteo Salvini, c'est la capacité de montrer que la puissance publique, que l'autorité peut de nouveau prendre des décisions et avoir des conséquences sur la vie quotidienne des Italiens. Alors, évidemment, c'est à court terme, évidemment, ça procure des souffrances, notamment dans le cas des migrants, mais il a montré rapidement qu'il était capable de prendre des décisions et que ces décisions étaient appliquées. C'est notamment la fermeture des ports pour éviter que les bateaux des organisations gouvernementales qui transportent et qui secourent des migrants eh bien, puissent pénétrer en Italie. C'est également, par exemple, le passer la loi sur les retraites qui permet de partir en retraite anticipée, ou encore, par exemple, le retour de Cesare Battisti, l'ancien activiste d'extrême-gauche qui était réfugié en France puis au Brésil. Alors évidemment, là, il a bénéficié de l'arrivée au Brésil d'un nouveau président Bolsonaro, sur la route qui lui a permis à travers la Bolivie de récupérer Batistuta. Mais l'essentiel, c'est que Matteo Salvini apparaît comme l'homme qui redonne de la crédibilité à la politique. Alors je répète, la crédibilité à court terme, ça produit des souffrances, mais ça rassure les Italiens.
Matteo Salvini, on va l'entendre justement lors d'une de ses nombreuses interventions ici dans une émission de télévision.
Io penso che gli italiani mi abbiano chiesto, vai al governo e torna a fare rispettare il nostro paese, le regole del nostro paese. Io questo sto facendo. In Italia arriva gente che porta rispetto. Se arrivi a far casino, ti metto sul primo barcone e ti riporto a casa tua.
Alors j'ai voulu qu'on entende Matteo Salvini, je vous dire un peu ce qu'il a dit. Les Italiens m'ont demandé d'aller au gouvernement pour faire respecter les règles de notre pays et je m'attelle à le faire. En Italie arrivent des personnes qui n'ont pas de respect. Alors si tu arrives et si tu mets le désordre, je te remets sur le premier bateau et je te ramène chez toi parce que les personnes qui mettent le désordre, j'en ai assez. Voilà un peu le discours de Matteo Salvini. David Basso, lorsque vous l'entendez, c'est un style dans Matteo Salvini.
Oui, effectivement, ce qu'on remarque, c'est un style extrêmement direct qui va tout de suite percuter la personne qui l'écoute ou qui le regarde. Il faut savoir qu'en Italie, ce qu'on appelle les talk shows, donc les émissions politiques, il y en a une surproduction, il y en a tous les soirs sur toutes les chaînes avec des journalistes différents et les ministres et les responsables politiques passent leur temps sur ces plateaux à faire leur politique au lieu que dans les ministères sur ce type de plateau télé. Donc ça, c'est typique de Matteo Salvini. On entend derrière les applaudissements. Ça aussi, c'est quelque chose vraiment qui caractérise les interventions de Salvini, c'est qu'il est tout le temps applaudi, etc. Donc on a en fait l'idée de lui qui porte la voix du peuple après avoir eu une sorte de mandat qui l'investirait quasiment de tout pouvoir. C'est ça qui ressort à mon avis de ce type d'intervention.
Alors Paola Livi, un des thèmes majeurs de Matteo Salvini, c'est la migration. Et évidemment, il s'y oppose. Est-ce qu'il y a des grandes différences entre le problème d'immigration vu par Matteo Salvini et vu par Luigi Di Maio?
Bah, écoutez, Luigi Di Maio, c'est un peu, passez-moi l'expression, un ectoplasme, c'est-à-dire il n'y a pas une colonne vertébrale dans le mouvement 5 étoiles idéologique avec des principes clairs. Eux, ils flairent un petit peu l'esprit du pays, etc. Et ensuite, ils s'y adaptent. Donc, le mouvement 5 étoiles s'est complètement plasmé sur la politique d'extrême droite de Matteo Salvini, cette fermeture virulente des ports qui est la négation même de ce qu'est l'Italie, c'est-à-dire que l'Italie qui a toujours été, comme l'a rappelé très justement Nanni Moretti dans une interview au Monde il y a quelques jours,
donc le réalisateur, le cinéaste,
l'Italien dans son ADN a toujours été très très solidaire, justement parce que lui a été le premier des migrants. Nous les Italiens, on a immigré partout dans le monde, donc c'est un peu drôle qu'ensuite on referme la porte aux migrants à leur tour. Donc l'Italie, quelque part, elle est en train de renier elle-même, son ADN. C'est un peu comme si la France reniait à un certain moment la laïcité, etc. Donc, c'est un peu contre nature. Et le mouvement 5 étoiles suit Matteo Salvini, mais comme disent les Américains, on le voit dans les sondages aujourd'hui, avec Salvini qui a le vent en poupe et le mouvement 5 étoiles qui s'effondre, comme disent les Américains, quitte à choisir, je choisis l'original. Parce que un mouvement 5 étoiles qui copie l'attitude de Salvini, on n'en veut pas. Si je veux voter Salvini, je vote pour l'original, pas pour un Salvini de série B, quoi.
Alors,
de seconde zone.
Alors, Tommaso Vitale, ce gouvernement peut-il tenir compte tenu de ces contradictions? Il y a eu des élections régionales, deux élections régionales, où le mouvement 5 étoiles s'est effondré et où la Ligue, qui n'est plus la Ligue du Nord, s'est considérablement développée. Est-ce que ce gouvernement peut tenir ou finalement il y a un parti qui est en train de dévorer l'autre?
Personne peut savoir exactement ce qui va se passer après les élections européennes. Matteo Salvini, en ce moment, il attend que le Parti démocrate puisse se faire encore plus de mal à soi-même. Matteo Salvini attend de voir quelles sont les conditions pour avoir un peu plus de force dans le Parti de Forza Italia. Matteo Salvini aide au soutien, le renforcement du parti néofasciste Fratelli d'Italia. Matteo Salvini, en ce moment, il calcule. On parle de quelqu'un qui est extrêmement réactif au sondage. Il peut changer les couleurs de son drapeau, il peut changer les couleurs de son site, il peut changer d'argument, il est très attentif aux dynamiques de l'opinion publique. Il regarde et, pour l'instant, il a tout l'intérêt à tenir ce gouvernement. Les 5 étoiles aussi. En ce moment, il n'y a pas de raison majeure pour faire tomber le gouvernement. Donc le gouvernement continue, ils ont certaines tensions, notamment dedans la Ligue, car il y a une composante qui, surtout au nord, demande plus d'autonomie et qui demande plus d'intégration européenne et de soutien au marché. Et bien évidemment, il doit faire avec un parti comme le parti 5 étoiles, qui s'appelle Mouvement, mais qui en fait, c'est un parti très très hiérarchique, qui est plutôt enraciné au sud, qui est plutôt attentif à des politiques de redistribution ou soi-disant sociales, et qui est très peu européiste.
Oui, il y a une contradiction majeure aussi au niveau de l'électorat, Éric Joseph. La Ligue, qui était la Ligue du Nord, est plutôt implantée dans le Nord, et il y a un an, le gros des scores électoraux du mouvement 5 étoiles, c'était plutôt dans le Sud, même si tout ça, c'est en train de changer.
Oui, effectivement, c'est en train de changer assez rapidement, notamment parce que la Ligue du Nord a retiré l'aspect septentrional et du Nord, et désormais ça s'appelle la Ligue, avec une vocation nationale, c'est la Ligue nationale, un peu sur le modèle du Rassemblement national français. Matteo Salvini a obtenu des résultats, notamment des bons résultats dans le sud et dans le centre du pays. On l'a vu notamment aux dernières élections régionales des Abruzzes. Ça devient véritablement un parti qui récupère notamment une partie de l'électorat qui, autrefois dans le sud, votait pour la force nationale, les post-fascistes. Et en revanche, pour le mouvement 5 étoiles, on voit bien que la perte d'influence, elle est également sur ces territoires, sur ces bastions électoraux. Le mouvement 5 étoiles perd des électeurs tant à droite qu'à gauche, c'est-à-dire que des électeurs qui étaient venus de la gauche se réfugient dans l'abstention, ou quelques-uns recommencent à voter pour le Parti démocrate, et puis une bonne partie, beaucoup plus importante, passe directement avec la Ligue. Et donc on voit bien qu'il y a eu un rééquilibrage non seulement politique, mais aussi territorial des rapports de force.
David Basso, Tommaso Vidal l'a rappelé, Éric Joseph aussi, la Ligue c'était la Ligue du Nord historiquement, c'est une partie régionale qui s'est un peu nationalisée. Et il y a vieille tentation des régions du Nord de faire sécession. Alors, est-ce que la Ligue se nationalisant, est-ce que vous avez l'impression que, oui ou non, je m'adresse à l'ancien élu du Nord de l'Italie, est-ce que cette tentation, cette de séparatisme existe toujours en Italie, ou au contraire, vous avez l'impression que la Ligue s'étant nationalisée, eh bien, il y a une vision un peu plus italienne des choses.
Non, je pense que cette vocation autonomiste reste en quelque sorte. Elle est certainement nuancée par rapport à il y a quelques années, dans le sens où, déjà, il y a tout un tas de partis autonomistes donc qui ne font pas partie de la Ligue, ancienne Ligue du Nord, qui sont en train d'émerger. Il y en a un certain nombre. Et qui, prennent un consensus généralement autour de 5%. Ça dépend après des zones, des régions. Par exemple, chez moi, c'est un parti qui, aux législatives, même pas aux régional, avait fait plus de 10%, le parti des autonomistes du Frioul. Donc voilà, il y a toujours quelque chose de latent, de dire, est-ce que finalement on serait pas mieux tout seul, ou en tout cas dans une sorte de grand nord, ou à la rigueur dans une sorte de grand nord-est. Donc il y a toujours ça. Et ensuite, par rapport à... il y a une grande capacité que moi j'ai du mal à comprendre en tant qu'électeur, mais que les électeurs de la Ligue comprennent très bien, c'est qu'il y a deux discours en fait de la Ligue. Au niveau local, ils disent, il y aura de l'autonomie, vous aurez plus d'argent, vous aurez vos impôts vont rester chez vous. Et au niveau national, ils disent, très bien, le Nord va aider le Sud, par contre le Nord va quand même faire un certain nombre de... va avoir un certain nombre de bénéfices au niveau fiscal. Donc en fait, il y a ces deux discours au niveau local et au niveau national, comme si en fait c'était quasiment deux partis différents. Or, ce sont les mêmes personnes qui prononcent ces mots, et les électeurs continuent de les croire, et c'est ça qui me laisse perplexe.
L'Italie est très complexe, l'Italie en de Matteo Salvini, nous allons y revenir dans la deuxième partie de l'émission, mais tout de suite on va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Carrefour de l'Europe sur RFI.
Spotkania europejskie.
Cruzamento d'Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. En Italie, Matteo Salvini, le leader de la Ligue, un parti d'extrême droite, gouverne le pays depuis 9 mois, en coalition avec le mouvement 5 étoiles, un parti anti-système. Les deux formations sont à la fois alliées et concurrentes, mais il a fallu peu de temps pour que la Ligue et son charismatique chef prennent le dessus sur le mouvement anti-système. Les dernières élections régionales dans les Abruzzes et en Sardaigne ont été cruelles pour le mouvement 5 étoiles. Alors, dans ces conditions, cette alliance peut-elle perdurer? Comment Matteo Salvini modèle-t-il petit à petit l'Italie? Et à quelques mois des élections européennes, quelle est la stratégie du leader d'extrême droite pour imposer ses vues au sein de l'Union européenne? Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Thomas Vitale, professeur de sociologie à Sciences Po Paris. Paolo Lévy, journaliste à l'agence de presse italienne ANSA. Éric Joseph est correspondant de Libération en Italie, il est en ligne de Rome. Et David Basso est un étudiant franco-italien et il était il y a quelques mois encore un jeune élu de municipal dans le Frioul. Avant de reprendre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Beniamino Morante.
Bonjour Daniel.
En Italie, la Ligue et le mouvement 5 étoiles ont beau être en concurrence sur le plan électoral, le mouvement de Luigi Di Maio a sauvé Matteo Salvini d'un mauvais pas judiciaire et pour Marco Travaglio, éditorialiste à Il Fatto Quotidiano, c'est une erreur fatale.
Oui, exactement. Alors Marco Travaglio, il faut savoir, est un éditorialiste très célèbre en Italie. C'est le directeur du Fatto Quotidiano, qui a la réputation d'être un journal assez proche des positions du mouvement 5 étoiles. Alors pour rappeler juste le contexte, Matteo Salvini était accusé par la justice italienne d'avoir séquestré des migrants en août 2018, puisqu'il n'a pas permis à 177 migrants de débarquer dans le port de Catane. Et le 5 étoiles a consulté sur la plateforme Rousseau sa base pour savoir s'il fallait faire un procès ou pas à Matteo Salvini, puisqu'il faut l'accord du Sénat. Et sur la plateforme Rousseau, les militants se sont prononcés à 60% contre le procès pour Salvini. Alors dans l'article, Marco Travaglio a des tons assez virulents. Ils ont contre à la fois la direction du 5 étoiles, mais aussi ses propres militants. Il fustige d'abord le mauvais choix des leaders du 5 étoiles de consulter la base sur une question qui est selon lui très technique, très pénale, mais aussi et surtout, et ça c'est encore plus frappant, le mauvais choix des militants. Puisqu'il dit clairement, et ça c'est une phrase assez forte, que les dirigeants n'ont que la base qu'ils méritent et inversement. Ensuite, dans l'article, il répète encore que le mouvement 5 étoiles n'est plus le mouvement fondé il y a 10 ans, qu'il est quelque chose aujourd'hui de tout à fait différent, que nous ne connaissons pas encore bien et dont nous ne pouvons pas imaginer l'avenir. Et il rajoute, d'un ton assez dur, un avenir qui paraît aujourd'hui sombre.
On est loin du mouvement 5 étoiles de ses origines.
Exactement, puisqu'il faut rappeler, Daniel, que le 5 étoiles à ses origines est un parti qui se fonde sur une vision assez justicialiste et surtout d'une loi égale pour tous et extrêmement contraire à tout privilège pour les politiques. Or, dans ce cas précis, les militants du 5 étoiles ont décidé de ne pas permettre le procès à un homme politique et c'est un renversement total, disons, de celles qui sont les valeurs fondatrices du mouvement. Et c'est ce qui interpelle en particulier Marco Travaglio, qui parle aussi, et ça c'est très très fort, d'un virus du berlusconisme qui a contaminé l'ensemble de la galaxie des 5 étoiles.
Paolo Lévy, le mouvement 5 étoiles est en train de se suicider, de se faire harakiri.
Alors, le mouvement 5 étoiles est aujourd'hui un parti ou un mouvement en otage de Matteo Salvini. C'est-à-dire que suffit de voir les chiffres. Aux élections du 4 mars, le mouvement 5 étoiles avait plus ou moins 33-34% des suffrages. Et le petit Matteo Salvini était un allié minoritaire avec juste 17%. Ça, c'était le rapport de force, la photo, il y a un an. Aujourd'hui, le rapport de force s'est complètement inversé. Dans les sondages, et on l'a vu dans les récentes élections, dans les Abruzzes et en Sardaigne, Matteo Salvini vole avec le vent en poupe vers les 40%, un truc fou. Et le mouvement 5 étoiles, en Sardaigne, il est passé en dessous de la barre de 20%. Il est effondré. Et aujourd'hui, ce mouvement 5 étoiles, qui avait engendré beaucoup de promesses et d'espoir aussi en Italie, se retrouve otage. Pourquoi otage? Parce que si on va à la crise de gouvernement, par exemple sur la question de la Lyon-Turin, où les deux partis, Ligue et M5S, sont complètement opposés, si on va à la crise de gouvernement, le mouvement convent 5 étoiles, ensuite va complètement perdre le pouvoir.
Il va imploser.
Voilà. Donc aujourd'hui, il est obligé d'être à l'intérieur de cette alliance contre nature et esclave de Matteo Salvini, en suivant d'ailleurs la ligne de Matteo Salvini, chose qui est en train de décevoir jour après jour la base, parce que si un électeur du mouvement 5 étoiles, il est distant des années-lumière d'un électeur de la Ligue. Donc c'est vraiment aujourd'hui, c'est le dilettantisme qui est en train de se montrer au grand jour de ce parti, parce que on a beau vouloir faire une opposition, et elle a été très très efficace quand on est en dehors des palais du pouvoir, en dehors du Parlement, c'est très bien de fustiger la caste, de fustiger les privilèges, mais ensuite l'exercice
des travaux pratiques sont toujours un peu plus difficiles.
Qu'on franchit le seuil, on doit composer avec la complexité du monde, et surtout on devient nous-mêmes caste, on devient nous-mêmes pouvoir. Aujourd'hui, il se trouve aussi orphelin d'un ennemi, d'un adversaire, ce mouvement 5 étoiles, et donc en crise d'identité totale. C'est pas un hasard s'ils sont allés chercher un ennemi ou un adversaire politique de l'autre côté des Alpes avec Emmanuel Macron. Parce que en Italie, c'est eux le pouvoir. Eux, ils savent seulement faire cette chose-là, de contester le pouvoir. Et disons, le pays plus proche de l'Italie, historiquement, c'est la France. Et donc, ces derniers temps, ils sont venus fustiger Emmanuel Macron parce que c'était l'adversaire naturel plus proche. Pour un raisonnement interne, les Français ne doivent absolument pas se vexer. C'est une stratégie électorale italo-italienne pour continuer d'exister.
Alors on va évidemment revenir sur Emmanuel Macron, qui est le coupable idéal pour Matteo Salvini et aussi pour Luigi Di Maio. On va y revenir un petit peu, mais qu'est-ce qui plaît aux Italiens de ce côté de Matteo Salvini, son côté matamor, son côté mal alpha qui veut rebondir David Basso?
Oui, il a un côté effectivement mal alpha qui à mon avis séduit un certain nombre d'électeurs qui dans le passé avaient été séduits par quelqu'un comme Berlusconi. C'était un bel homme qui avait du succès, tout ce genre de considérations qui effectivement donne à l'électeur un peu l'impression que c'est quelqu'un qui a du succès, et bah il va forcément aussi avoir du succès s'il est au gouvernement. Le deuxième élément, c'est que Salvini a l'intelligence de toujours trouver le bon chef expiatoire au bon moment. D'un point de vue disons global de sa politique, évidemment c'est les migrants, et d'un point de vue de stratégie politique, maintenant son chef expiatoire c'est le mouvement 5 étoiles, c'est-à-dire que ce sera le mouvement 5 étoiles qui va porter le chapeau de toutes les erreurs de ce gouvernement dans le futur, à mon avis.
Alors évidemment, Tommaso Vitali, vous voulez réagir?
Oui, je suis complètement d'accord, mais je pense qu'il y a d'autres choses que les Italiens aiment beaucoup. Alors, on revient sur la question du bateau di Ciotti et des choses horribles que le gouvernement a fait.
Alors ce bateau, c'est un bateau qui est aéré sur les mers, et il a fallu beaucoup de temps avant qu'il trouve un port où il puisse débarquer ses passagers, c'est-à-dire les migrants.
Alors, il y a quelque chose qu'on doit regarder et admettre. C'est-à-dire que le 75% des Italiens ont apprécié ce qui a été fait par Salvini dans ce cas-là. C'est horrible. Ça n'a rien à faire avec le respect minimal, pas seulement des droits humains, mais aussi du droit international. Ça a engendré énormément de problèmes, même contre l'Italie, en termes de négociation des politiques d'immigration. Mais c'est ça qu'on doit regarder. C'est-à-dire que comment l'opération a été présentée en Italie? Avec le langage de l'amour, avec le langage de « on va vous envoyer des médecins et des infirmiers », avec le langage de « on vous aide, mais c'est plus possible de venir en Italie, on vous suive, il y a l'armée à côté de vous, rien peut vous se passer, on prend soin de vous ». Il faut savoir quelque chose de la rhétorique de Salvini, qui est quelqu'un qui termine toujours avec « bisous », qui part du parti de l'amour, qui est très strict, mais dans chaque conversation qu'il a sur n'importe quel thème, il parle d'enfants, de traditions populaires, il parle de ses enfants, il parle au père, aux mères de famille, il a un langage très vulgaire, mais pas trop vulgaire, très populaire. Il y a quelque chose qui est important, qui ne peut pas être sous-estimé. Et cette chose que moi je veux pointer, c'est cette capacité de créer consensus. Matteo Salvini, avant de devenir élu à 18 ans, il était à gauche, très à gauche, très très à gauche, dans la gauche radicale. Et il est rentré dans la Ligue en tant que composant des communisti padani, les communistes des régions du Nord.
De la région de la Padanie.
De la Padanie. Il a ce mélange aujourd'hui, car il est quelqu'un qui a étudié, mais qui l'a étudié énormément, qui connaît tous les grands leaders de la droite, qui est quelqu'un qui était capable de négocier tout de suite avec Trump. Il est quelqu'un qui a étudié pour 30 ans le langage, les objectifs, l'idéologie, les stratégies de la droite autoritaire. Voilà, il est le plus vieux homme politique du Parlement. Il est le leader du plus vieux parti dans le Parlement. Il a l'expertise. Il a une énorme capacité d'articuler intérêt local et intérêt national. Et il propose un langage qui mélange nationalisme dur et redistribution. Ou si vous voulez, pour être clair, nationalisme et dimension socialiste. Il ne faut pas échapper du fait que lui, il représente une idéologie précise, c'est-à-dire l'idée que la redistribution est importante, le soutien aux classes populaires est important et la redistribution est possible seulement dans un cadre de fermeture nationaliste. Donc c'est le pire du pire pour moi. Mais il faut savoir qu'il y a derrière une pensée, une idéologie, une capacité d'alliance et une capacité de vision. C'est pour ça que certaines fois en Italie, ils l'appellent comme le lungimirante. C'est horrible à dire, mais ça veut dire...
Ça se traduit.
Quelqu'un qui regarde au futur. Il ne faut pas penser qu'il soit bête. Même si son algorithme pour saisir les dynamiques de l'opinion publique s'appelle la bête. Et c'est vraiment ça, cette capacité de rentrer en résonance avec des thèmes, des humeurs, des moods de l'opinion publique et le gérer avec une hypothèse très forte autoritaire, de fermeture, mais aussi un langage très, très doux.
Éric Joseph, ce qui est en train de nous expliquer Tommaso Vitale, c'est que c'est une incroyable bête politique, Matteo Salvini.
Oui, en fait, effectivement, je partage ce qui vient d'être dit. J'ajouterais quand même un élément fondamental, c'est que Matteo Salvini arrive à un moment où l'Italie est en plein désarroi par rapport aux transformations du monde. C'est un processus très lent, mais l'Italie a été en quelque sorte hypnotisée pendant des années en laissant croire, et notamment par Silvio Berlusconi, pendant des années, que en fait le monde changeait, mais que l'Italie pouvait rester l'Italie éternelle, l'Italie protégée. Et puis tout d'un coup, notamment après la grande crise économique et financière, c'est un grand désarroi, parce que les Italiens se rendent compte que le monde change, que les migrants arrivent sur les côtes, qu'il y a véritablement une transformation du monde, et donc il y a une crainte par rapport au futur. Et Matteo Salvini est l'homme qui vient en quelque sorte rassurer. Il est rassuré par sa propre personnalité. Il présente le visage de l'Italien moyen, de l'Italien commun, mais décidé, prêt à mettre son corps effectivement pour protéger l'Italie. Et d'ailleurs, quand il est dans les manifestations publiques, très souvent, les Italiens lui crient, les citoyens lui crient Matteo, sauve-nous. Et une grande force de Salvini pour l'instant et à court terme, c'est justement de procurer une assurance, c'est-à-dire qu'il montre d'une certaine manière qu'on peut fermer les frontières, et on peut parce qu'on ferme les ports, on peut véritablement agir, et donc c'est en quelque sorte une redonner de la crédibilité à l'action politique. Alors évidemment c'est une crédibilité qui est de court terme, parce que c'est pas en fermant les ports qu'on va résoudre le phénomène de l'immigration, c'est pas en fermant les frontières qu'on va résoudre les problèmes économiques de l'Italie, mais malgré tout, pour l'instant, ça marche, parce que c'est en quelque sorte la réhabilitation de l'action politique. Et ça, Matteo Salvini l'a bien compris, et il correspond, il répond à une attente et un désarroi de la population italienne.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, l'Italie de Matteo Salvini. Nous sommes avec Tommaso Vital, professeur de sociologie à Sciences Po Paris, avec Paolo Livi, journaliste à l'agence de presse italienne ANSA, avec David Basso, étudiant franco-italien et ex-élu local, et avec Eric Joseph, que l'on vient d'entendre, correspondant de Libération en Italie, en ligne de Rome et cofondateur de l'association Europa Now. Les relations entre la France et l'Italie ont toujours été un peu difficiles, mais elles ont atteint un sommet lorsque le gouvernement français a rappelé son ambassadeur, c'était il y a quelques jours, après que Luigi Di Maio, donc le leader du mouvement 5 étoiles, a rencontré quasi clandestinement des responsables des Gilets jaunes, notamment quelques-uns des plus radicaux. On a l'impression, et vous l'avez un peu évoqué, Paolo Livi, Emmanuel Macron, c'est le coupable idéal pour la classe politique aujourd'hui au pouvoir en Italie. David Basso, on a un peu entendu Paolo Livi sur le sujet. Vous partagez ce point de vue ?
C'est-à-dire que il y a toujours eu entre la France et l'Italie un peu une sorte de moquerie, de condescendance mutuelle.
Plutôt du côté français.
Disons peut-être la condescendance peut-être du côté français, de par le fait qu'effectivement les Italiens étaient un peu étaient ces migrants qui arrivaient en France, etc. Mais de la part de l'Italie, un peu une sorte de moquerie. Donc en fait, cet épisode traduit ce climat général qu'il y a entre les deux pays. Et effectivement, comme le disait Paolo Livi tout à l'heure, c'est purement stratégique de la part de l'Italie. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun intérêt diplomatique à attaquer la France, ni économique d'ailleurs, puisque c'est un des principaux partenaires de l'Italie. Donc c'est purement quelque chose d'interne. C'est pour ça qu'il a vraiment raison de dire que les Français ne doivent pas se vexer pour ce qui s'est passé. Mais effectivement, c'est quelque chose qui a un effet uniquement sur le plan interne.
Alors, il y a un effet sur le plan interne, Paolo Livi, mais il y a derrière la perspective des élections européennes et de la part de Matteo Salvini, la volonté de remodeler l'Europe un peu à son image.
Oui, voilà, exactement, vous l'avez dit. Les attaques répétées de Matteo Salvini à l'encontre d'Emmanuel Macron, rentrer dans un cadre strictement électoraliste. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a représenté aux yeux de Salvini l'adversaire parfait. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron, il a été quand même assez hypocrite sur cette question des migrants, notamment sur l'affaire de l'Aquarius, ce navire que vous avez évoqué qui a erré pendant des jours et des jours en Méditerranée jusqu'à trouver finalement un port en Espagne, voilà, a été quelque chose qui se prêtait le flanc aux pires critiques. On peut pas, comme l'a fait Gabriel Attal au tout début, porte-parole de La République En Marche, dire que l'Italie fait vomir, et ensuite Emmanuel Macron, de surcroît, faire la leçon à l'Italie, et ensuite ne pas agir de conséquence. C'est-à-dire, Emmanuel Macron est dans son plein droit, et il avait absolument raison de fustiger la politique d'Emmanuel Macron, de Matteo Salvini, en disant que voilà, cette fermeture des ports était absolument inconcevable. Mais ensuite, t'agis de conséquence, tu ouvres immédiatement, tu dis l'Italie est indécente, Marseille, ouvrez le port de Marseille, l'Aquarius rentre en France. C'est pas que tu fais la leçon et ensuite tu fais la même politique. Mm-hmm. Parce que, alors, s'il y a une chose vraiment que les Italiens ne peuvent pas supporter, c'est l'hypocrisie. Et ça les rend fous, mais à juste titre. Donc, ce double discours d'Emmanuel Macron, qui, d'un côté, allait faire la leçon à Salvini et ensuite faisait exactement la même politique avec un langage, bien sûr, plus policé, plus droit de l'hommiste, etc., c'était quelque chose d'insoutenable. Et Matteo Salvini a vu un boulevard devant lui. Il a foncé à juste titre. Donc, et ensuite l'Espagne, parce que dans toute cette sorte de téléfilms, de séries incroyables, après il y a cette Espagne qui sort du chapeau. Et tout discrètement dit, bon, l'Aquarius, il ne pouvait pas venir chez nous. Donc, ça a été un épisode qui a montré toutes les limites de l'Europe.
Matteo Salvini a raison de souligner que l'Europe a abandonné l'Italie quand il y a eu le flux de migrants important à partir des années 2010-2012. Il n'a pas tort de le rappeler.
Il a complètement raison. On ne rappelle jamais assez que François Hollande et Nicolas Sarkozy, les trois présidents, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, trois présidents qui viennent, disons, de traditions politiques différentes, ont tous garder la même politique de fermeture totale et d'absence de solidarité par rapport à l'Italie. Et moi, en 2012, 2013, 2014, je me souviens toutes ces années où à chaque fois, l'Italie devait composer toute seule avec ce problème, ces refoulements quotidiens de migrants à la frontière de Menton, entre Menton et Ventimiglia. On a vu dans les Alpes des gendarmes refouler des migrants en franchissant même la frontière pour amener des migrants la nuit dans la neige. Bref, comme l'Italie aujourd'hui ferme ses ports et renie en quelque sorte sa tradition d'accueil, la France n'est pas meilleure. Elle est en train vraiment de renier cette définition qu'elle a d'elle-même de patrie des droits de l'homme. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui peut-être mérite le titre de patrie des droits de l'homme, c'est certainement pas la France, certainement pas l'Italie, mais peut-être cette Allemagne d'Angela Merkel qui en 2015 a ouvert grand les portes à un million de réfugiés.
Thomas Somitalé, aujourd'hui Matteo Salvini a une idée bien précise dans la tête, recomposer la scène européenne pour compter c'est à la fois le poids du PPE, c'est-à-dire les conservateurs, et des socialistes et des libéraux. Et évidemment, dans la campagne électorale, Macron sera sa plus grande cible.
Oui, sans doute. Salvini, il aime jouer, il aime jouer fort. Et il ne faut pas le sous-estimer. Il y a l'enjeu européen, il y a un autre enjeu qui est pour l'Europe, pour l'Italie, et que Salvini et les 5 étoiles sont en train de jouer et de le jouer très mal. C'est-à-dire, c'est la Méditerranée. L'Italie a toujours joué un rôle très important dans la Méditerranée. Il ne faut pas le sous-estimer. C'est un rôle économique majeur, c'est un rôle de partenariat, c'est un rôle aussi géopolitique, stratégique, diplomatique, etc. L'Italie et la France sont très très loin par rapport à la gestion de la crise en Libye. Aujourd'hui, ils sont plus loin que jamais. Et ça ne fait pas du bien ni à ces 900 000 personnes qui sont en Libye et dont l'ONU nous dit qu'ils sont dans des conditions horribles de violence contre eux. Ça ne fait pas du bien aux citoyens de la Libye qui restent dans une condition de guerre permanente. Il ne fait pas du bien à l'Europe par rapport à sa capacité unitaire de faire quelque chose comme une politique étrangère importante pour les droits de l'homme et pour le développement économique. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que cette émergence du pouvoir du nationalisme dur de droite et sa capacité d'être hégémonique sur d'autres partis avec moins de stratégie, comme disait Paolo, aujourd'hui est en train pas seulement d'avoir une stratégie par rapport à la composition à venir du Parlement européen, mais il est en train de fragiliser les politiques publiques européennes. Il est en train de remettre en compétition les États, même sur le dur. Heureusement, l'Europe est arrivée à signer l'accord d'échange avec le Japon. C'est le plus grand marché ouvert et avec des vraies contraintes de respect des droits sociaux des travailleurs. Mais il faut dire que l'Italie est en train de jouer un mauvais rôle dans la mise en œuvre de ce accord. C'est-à-dire que ce nationalisme qui ne pense pas à comment l'ensemble de la politique agricole, de la politique d'exportation, du design, de high quality, de soft industrial design, de le plaisir des terroirs, le fait que ça doit bénéficier à l'Europe et au Japon, mais dans des politiques à l'échelle européenne pour faire face à cet énorme marché, ça ne passe pas à l'esprit du gouvernement italien. Et ça va fragiliser les capacités de coopération et interdépendance économique qui sont la seule façon qu'il y en a aujourd'hui pour relancer l'avenir.
Alors Éric Jeunesse, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Ce que vient d'expliquer Thomas Vitalet, évidemment, on en est très loin dans la façon dont la campagne électorale va se mener pour Matteo Salvini, avec Marine Le Pen, avec Viktor Orban, avec les Polonais du PIS, le parti droit et justice, cette idée d'avoir au sein de l'Europe un parti d'extrême droite, conservateur, ultra-conservateur, nationaliste et xénophobe, qui doit, dans l'idée de Salvini, avoir tout son poids dans le prochain Parlement européen.
Oui, effectivement, mais moi je partage totalement l'analyse qui vient d'être faite par Thomas Rosenthal. Il faut pas voir que la diatribe franco-italienne uniquement sous l'angle de électoraliste. Évidemment, il y a des intérêts, même du point de vue de la part de Emmanuel Macron, d'avoir stigmatisé les nationalistes et italiens en parlant de la lettre nationaliste, et de l'autre côté, du côté de Salvini, d'attaquer et des 5 étoiles d'attaquer le président français. Il y a véritablement deux visions derrière qui sont diamétralement opposées. Il y a la vision, en quelque sorte, d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel d'aller vers une intégration plus grande de l'Europe, vers une coopération et un approfondissement du processus européen, et de l'autre, les nationalistes, dont Matteo Salvini est désormais le principal représentant en Europe, où la vision c'est d'avoir une Europe minimale et d'avoir des États-nations qui retrouvent en quelque sorte une sorte de d'autonomie et qui remettent en question véritablement la construction européenne, dans le sens où ils préfèrent même faire des accords avec d'autres puissances. On voit bien par exemple que Matteo Salvini a un rapport très fort avec la Russie de Vladimir Poutine, et donc c'est véritablement l'idée d'affaiblir l'Europe communautaire pour reproduire des rapports entre les États-nations. Et donc il y a véritablement deux conceptions qui s'opposent, et qu'il ne faudrait donc pas réduire les polémiques politiciennes à la veille des élections comme uniquement des intérêts électoraux. Cette fracture, on la retrouvera après les élections de mai prochain au Parlement de Strasbourg.
Merci à tous les cas d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Olivier Roux, avec Beniamino Morant de Courrier International et la complicité de Niklas Munch. Sur la page de l'émission, des informations sur nos invités, pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous les autres, au choix, le site RFI.fr ou l'application RFI Pure Radio. On reste en contact via Twitter et Facebook. Daniel Desescalo, que vous soyez à Rome, Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et écrivez-nous à carrefour.europe@rfi.fr.